Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les millionnaires de la chance, rêve et réalité est une enquête sociologique de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot consacrée aux grands gagnants du loto et de Euro Millions. Publié chez Payot, cet essai déplace le regard habituellement porté sur les élites patrimoniales vers des personnes devenues millionnaires par hasard, souvent issues de milieux populaires ou modestes. Les auteurs analysent les entretiens menés auprès de gagnants ayant accepté un accompagnement de la Française des Jeux. Leur objet ne consiste ni à célébrer des dépenses spectaculaires, ni à fournir un guide de placement. Il est de comprendre les effets sociaux, relationnels et psychologiques de la richesse soudaine. Le livre montre que recevoir beaucoup de capital ne donne pas immédiatement les habitudes, les relations, ni le sentiment de légitimité associé aux classes favorisées. Il examine donc un apprentissage à apprendre à gérer un patrimoine, à protéger sa vie privée, à redéfinir ses liens et à rendre une fortune nouvelle compatible avec une identité ancienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la richesse soudaine révèle que le capital ne se réduit pas à l'argent. Le point de départ du livre est une distinction essentielle: disposer de plusieurs millions ne signifie pas posséder toutes les ressources qui rendent la richesse socialement facile à vivre. Les auteurs prolongent ainsi leurs travaux sur les groupes fortunés en rappelant que leur position repose sur plusieurs capitaux. Il y a le capital économique, mais aussi des connaissances culturelles, des relations utiles, une familiarité avec certains lieux et un prestige reconnu. Les gagnants de loterie reçoivent brutalement le premier de ces capitaux sans avoir nécessairement acquis les autres. Cette dissociation explique une part de leur désorientation. Le gain élargit les choix matériels, mais il ne fournit pas spontanément les critères pour évaluer un conseiller financier. Acheter un bien immobilier, fréquenter des établissements très codifiés ou définir ce qui est raisonnable de donner aux proches. Le livre ne traite donc pas les gagnants comme une catégorie homogène de nouveaux riches. Il montre que leur manière de vivre le gain dépend de leur trajectoire, de leur niveau de formation, de leur famille et de leurs réseaux antérieurs. La question centrale devient moins celle du montant reçu que celle de son appropriation. Une fortune est durablement intégrée lorsqu'elle peut prendre place dans une histoire personnelle et dans des pratiques qui ont du sens pour celui ou celle qui la possède. Deuxièmement, la violence symbolique rend visibles les frontières du monde privilégié. Les auteurs mobilisent la notion de violence symbolique pour décrire le malaise ressenti par certains gagnants dans les espaces traditionnellement associés aux catégories favorisées. Restaurants prestigieux, palaces, boutiques de luxe ou échanges avec des professionnels spécialisés peuvent rappeler aux nouveaux millionnaires qu'ils ne maîtrisent pas les manières attendues. Le problème ne réside pas seulement dans le prix des biens ou des services. Il tient au code implicite vocabulaire, tenue, façon de commander, connaissances supposées et assurance dans la relation. Une personne peut avoir les moyens de payer tout en se sentant extérieure au lieu où elle se trouve. Cette expérience éclaire la persistance des frontières sociales au sein même de la mobilité ascendante. L'argent modifie le pouvoir d'achat, mais il ne supprime pas instantanément les dispositions acquises dans le milieu familial et professionnel. Le regard réel ou anticipé des autres peut renforcer la gêne et pousser à éviter ces univers. Le livre donne ainsi une portée concrète à une idée sociologique souvent abstraite: les inégalités se reproduisent aussi par la familiarité inégalement distribuée avec les institutions et les signes de la distinction. Il ne conclut pas que les gagnants doivent imiter les héritiers, mais montre le coût social de cette injonction tacite à savoir se comporter comme un riche. Troisièmement, la Française des Jeux intervient comme instance d'apprentissage et de protection. Un apport original de l'enquête concerne les dispositifs proposés aux grands gagnants par la Française des Jeux. Ateliers sur les produits financiers et le marché immobilier. Rencontres collectives, invitations dans des lieux prestigieux et espaces de discussion ne répondent pas seulement à un besoin technique. Ils organisent une première socialisation à la richesse. Les participants peuvent y acquérir des repères pour gérer un capital important, mais aussi mettre en mots des difficultés rarement partageables dans leur entourage habituel. Le gain crée en effet des problèmes spécifiques: demande de prêts ou de dons, inquiétudes relatives à la sécurité, nécessité éventuelle de préserver le secret, rapport renouvelé avec les banques et incertitude sur le travail. Le collectif de gagnants réduit temporairement l'isolement lié à une situation exceptionnelle. Cette médiation mérite toutefois une lecture nuancée. Elle aide les individus à se repérer dans des univers qu'ils connaissent peu, mais elle les introduit aussi aux normes de comportement associées à la grande richesse. L'enquête porte principalement sur les personnes qui ont accepté cet accompagnement, ce qui limite sa représentativité. Les auteurs signalent ce biais et diversifient les profils rencontrés. Cette réserve ne diminue pas l'intérêt du matériau, elle précise la portée des résultats. le livre observe avant tout comment des gagnants accompagnés négocient concrètement leur changement de statut, plutôt que de prétendre décrire tous les détenteurs de gros lots. Quatrièmement, les liens familiaux et professionnels sont bouleversés par le secret et la redistribution. Le gain ne transforme pas uniquement le budget du gagnant, il modifie la signification de ses relations. Famille, amis, collègues et voisins peuvent percevoir la nouvelle richesse comme une ressource à partager, comme une rupture avec le groupe ou comme un secret inquiétant. Les auteurs montrent que la discrétion devient souvent une stratégie de protection. Elle vise à éviter les sollicitations, les jalousies et les risques de sécurité, mais elle peut aussi imposer des mensonges ou des silences difficiles à tenir. La question du don est particulièrement délicate. Donner peut exprimer la solidarité et permettre de faire bénéficier les proches du gain. Pourtant, le don peut également installer des dépendances, faire naître des attentes durables ou créer des comparaisons entre bénéficiaires. Le même dilemme concerne le travail. Quitter son emploi peut sembler logique sur le plan financier, mais une activité professionnelle fournit aussi une structure temporelle, une reconnaissance et des relations qui ne se remplacent pas automatiquement. Le livre évite donc l'opposition simpliste entre générosité et égoïsme ou entre départ immédiat et maintien au poste. Il analyse les arbitrages par lesquels chacun tente de conserver des attachements sans devenir prisonnier de sa nouvelle situation. La richesse inopinée intensifie des tensions déjà présentes dans les relations sociales et oblige à redéfinir les limites entre vie privée, obligation morale et autonomie individuelle. En dernier lieu, Patrice Gerbeau illustre une appropriation ancrée dans un territoire et un collectif, le cas de Patrice Gerbeau. Ancien ouvrier menuisier devenu multimillionnaire sert aux auteurs à préciser ce qu'ils entendent par une appropriation réussie du gain. Son exemple ne vaut pas comme recette universelle. Il montre plutôt qu'une richesse nouvelle peut être rendue cohérente avec des dispositions et des liens antérieurs. En investissant notamment dans des propriétés forestières associées à sa passion pour la chasse, il ne cherche pas simplement à afficher un statut. Il inscrit son patrimoine dans un univers familial, local et collectif déjà important pour lui. Les terres deviennent un support de sociabilité avec ses proches et ses compagnons de chasse. Cette orientation lui permet de redistribuer une part des possibilités ouvertes par le gain, tout en consolidant son appartenance au groupe. Il acquiert bien un statut de propriétaire, mais ce statut est relié à une mémoire familiale et à un territoire plutôt qu'à une imitation pure des styles de vie dominants. Les auteurs en tirent une idée mesurée, être à l'aise avec son gain suppose de construire une continuité intelligible entre une position sociale ancienne et des ressources radicalement nouvelles. Cette continuité peut passer par des projets différents selon les personnes. Le cas étudié souligne surtout que la consommation la plus visible n'est pas forcément celle qui aide le mieux à stabiliser une identité. L'usage social du patrimoine compte autant que sa valeur monétaire. En conclusion, Les millionnaires de la chance, rêve et réalité intéressera les lecteurs de sociologie des classes sociales, de mobilité sociale et de rapport à large, ainsi que les étudiants, professionnels de l'accompagnement patrimonial et lecteurs curieux de ce qui se passe après un gros gain. Il sera moins adapté à qui cherche des conseils directs de gestion financière ou une galerie de dépenses extravagantes. Son bénéfice intellectuel et de déplacer une croyance répandue large résoudrait à lui seul les difficultés liées au manque de ressources. Les auteurs montrent au contraire que la richesse soudaine crée des choix, des tensions et des apprentissages nouveaux, notamment dans les relations, la protection de la vie privée et le rapport aux institutions financières ou mondaines. Le lecteur peut aussi mieux comprendre pourquoi des comportements jugés prudents, discrets ou hésitants ne relèvent pas nécessairement de l'irraisonnel, mais d'une histoire sociale. L'ouvrage se distingue des récits sensationnalistes sur les vainqueurs de loterie et des manuels de finances personnelles par son enquête de terrain et son cadre sociologique. Il ne réduit ni les gagnants à des victimes incapables de gérer leur fortune, ni à des consommateurs naïfs. Il analyse leurs stratégies, leurs contraintes et leurs réussites dans leur diversité. Sa principale limite, explicitement reconnaissable, tient au fait que les personnes observées ont accepté l'accompagnement de la Française des Jeux. Cette réserve renforce plutôt la valeur du livre, il propose une interprétation située, précise et attentive aux mécanismes sociaux de l'apprivoisement de la richesse. Si vous souhaitez soutenir Michel Pincon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.